Comme on dit souvent, Philippe, ça se joue sur la glace. Eh bien, après des jours et des jours d'attente, c'est ce soir que ça va se jouer sur la glace, 21h, heure de Montréal. Est-ce que le Québécois Marc-André Fleury va résister aux assauts du Canadien?
Hey, c'est la grosse question que je me pose. Pour moi, c'est le joueur qui, paradoxalement, Patrick, a le plus à gagner, mais le plus à perdre dans cette série-là. Parce qu'on le sait, son équipe, les Knights de Vegas, sont largement favoris. Là. La plupart des experts les donnent gagnants. S'ils gagnent, les Knights, tant mieux, mais tout le monde va dire c'est normal, ils ont une meilleure équipe que celle du Canadien. En revanche, s'ils perdent, les Knights, c'est que le Canadien l'emporte puis qu'il donne un ou deux buts douteux. Et ça arrive parfois à Marc-André Fleury de donner un ou deux buts douteux, ben là, évidemment, on va dire qu'il n'a pas été capable de tenir le coup psychologiquement face aux Canadiens. Bon, l'équipe de sa ville d'origine, il vient de Sorel. Donc, pour lui, je trouve que c'est énormément de pression. Mais, tu sais, si jamais il réussit à mener les Knights à la victoire, et encore plus, c'est une victoire convaincante, 4 matchs, 5 matchs. Là, je pense qu'il va venir, encore une fois, de cristalliser sa réputation, sa renommée, parce qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être la seule chose qu'on peut lui reprocher. En 2010, face aux Canadiens, il n'avait pas connu ses meilleurs moments. Puis on le sait, battre l'équipe de ta ville d'origine, l'équipe que tu as encouragée quand tu étais jeune, c'est pas pareil comme battre pour un gars comme lui les Maple Leafs de Toronto, les Jets de Winnipeg. Psychologiquement, c'est des planètes différentes. Là. Le Canadien de Montréal, il a grandi en écoutant cette équipe-là.
C'est un excellent gardien de but. Il a gagné la Coupe Stanley d'ailleurs. C'est lui qui était devant le filet des Knights quand ils se sont rendus en finale.
Ouais, tout à fait.
Mais il me semble que des fois, il y a des épisodes où il est chancelant.
Exactement. Ça a toujours défini un petit peu sa carrière. Il y a un peu d'inconstance dans la carrière de Marc-André Fleury.
Des moments de génie, mais des fois, il n'échappe une.
Puis aussi, c'est qu'il y a un style qui est plus spectaculaire
échevelé
devant le filet. Ouais. Tu sais, un Carey Price est tellement technique, couvre ses angles, il glisse, puis tu sais, c'est rodé au quart de tour. Fleury, c'est un style différent. C'est spectaculaire. Il sort la mitaine, sort la jambière, puis il va réussir des coups absolument extraordinaires. Mais parfois, c'est ça. On l'a vu dans la série précédente contre Colorado, tout à coup, il a donné un mauvais but dans un match ou deux, puis ça peut faire mal à son équipe. Alors pour moi, pour le Canadien, ce soir, là, je le sais, là, c'est le plus vieux cliché du hockey. Le premier but est tellement important. Ben, ce soir, il l'est vraiment, parce que si jamais, imagine la situation, si le Canadien marque le premier but, puis que Fleury est un petit peu chancelant, ça pourrait devenir, à mon avis, un point tournant dans cette série-là. Donc pour moi, aucun doute là-dessus. Le joueur avec le plus de pression au moment où commence cette série-là, les deux équipes confondues, c'est Marc-André Fleury.
Très bien. Parlons de tennis. Il y aura un tournoi de tennis à Montréal cet été. Est-ce qu'il y aura des spectateurs?
Ben, il y aura. C'est pas sûr encore. C'est que Québec a donné son accord. Le gouvernement du Québec, la santé publique, a donné son accord à Tennis Canada pour la présentation du tournoi à Montréal. Il faut maintenant l'accord du fédéral. Parce que, bien sûr, il faut que les joueurs qui viennent d'ailleurs au Canada puissent entrer au pays, qu'on s'entende sur les normes d'une quarantaine et tout et tout. Mais pour la première fois, là, on sent les gens de Tennis Canada optimistes. Souviens-toi, il y a à peu près un mois, l'idée même de présenter les deux tournois, celui de Montréal, celui de Toronto, aux États-Unis, avait été évoquée parce que le Tennis Canada voulait absolument présenter ces tournois, peu importe où, ne serait-ce que pour toucher les revenus des droits de télé et continuer à investir dans le développement du sport au pays. Alors là, si c'est ici, ben c'est encore mieux. On espère qu'avec le fait que la vaccination va quand même bon train, la situation pandémique est plus sous contrôle, qu'on puisse accueillir des spectateurs. Mais moi, sincèrement, je vois pas pourquoi on pourrait pas accueillir des spectateurs au tournoi de tennis qui est disputé en plein air, alors qu'on va accueillir 2500 spectateurs et peut-être même davantage au Centre Bell pour un match de hockey. Là. Il y a quelque chose dans tout ça que je comprends pas, mais enfin, on verra bien comment ça va aller. Mais disons que la bonne nouvelle, c'est que ça regarde bien pour la première fois. Et je veux juste, puisqu'on parle de tennis, te raconter ma journée d'hier. Alors, dimanche, grosse journée de sport à la télé, je prends un café, j'écoute le premier match de l'Euro à 9h. Puis j'étais pas intéressé tant que ça par le final de tennis de Roland-Garros entre Tsitsipas et Novak Djokovic. Mais là, je constate que Tsitsipas mène 2-0. Hey, un jeune qui va battre un des membres du Big Three, je vais écouter ça. Ben, j'ai pas assisté à la victoire de Tsitsipas. Ça a été vraiment une remontée spectaculaire de Djokovic. Il a gagné les 3-7 suivants. On a vu là un jeune joueur, le Tsitsipas, être battu psychologiquement dès le troisième set. Et il y avait énormément d'ennui.
Est-ce que, bon, ben Catherine, on va... tu connais Philippe?
Oui, oui,
Philippe avait un chat
dans la gorge. Désolé,
quand ça arrive.
Laissez-moi prendre ma journée, ma gorgée de café.
Je voulais me demander si j'avais réfléchi, c'est ça?
Non,
combien
mais
de temps j'avais réfléchi?
Ce que j'allais dire, c'est qu'on a demandé à Catherine de ne pas regarder les matchs du Canadien parce qu'elle leur porte malchance. Et toi, justement, le jeune Titipas, t'as commencé à regarder le match puis tu y as porté malchance.
Oui, mais tu sais, on a appris aujourd'hui une nouvelle triste. Il était proche de sa grand-mère et 5 minutes avant d'embarquer sur le court hier pour sa finale, cette grande finale, il a appris que sa grand-mère venait de nous quitter, venait de mourir. Bon, mais malgré tout, il a disputé un match formidable. Mais tu sais, pour ces jeunes-là, là, tu mènes 2-7-0, puis là, tu dis, hey, je vais peut-être battre Novak Djokovic, qui est probablement le plus grand joueur de l'histoire. Oui, je vais le battre. Puis là, le troisième set commence. Puis là, c'est 2-1 pour Djokovic. Puis c'est Tsitsipas au service. Puis là, il faut qu'il garde son service pour faire 2-2. Puis c'est difficile. Puis là, Djokovic a des balles de bris. Puis finalement, je pense qu'à la 5e balle de bris, Djokovic brise Tsitsipas. Ça devient 3-1 Djokovic. Patrick, je te le dis, là, à partir de là,
bang,
c'était fini. On l'a senti. C'était tellement clair. Tsitsipas menait 2-7-0. Il perdait 3-1 dans le troisième set, mais c'était à peu près terminé. Et là, tu as vu Djokovic commencer à jouer à la Djokovic. C'était extraordinaire. On a tout vu, toute la panoplie des coups.
Dans les boys, quand ils ont dit la dureté du mental, c'était une blague, on l'a transformé en caricature. Mais le sport, c'est pas juste physique, Philippe.
Non, c'est très mental aussi. Et là, après, il y a la remise des prix et tout, puis il y a peut-être des gens qui l'ignorent. Hein. Mais Djokovic parle un excellent français. Alors, il est à Paris, puis il est interviewé sur le court, il répond en français à toutes les questions. Par la suite, la cérémonie officielle parle très bien français. Il a été vraiment très, très impressionnant, encore une fois. Il parle plusieurs langues, Djokovic. Bon, le serbe, bien sûr, que c'est sa langue maternelle. Il parle français, l'anglais. Je pense qu'il y a des notions aussi en italien, en espagnol. C'est quand même assez spécial.
Polyglotte.
Oui.